Quinquennat, acte 2, la feuille de route post-gilet jaune, post-grand débat national. C'était donc cette semaine le Premier ministre devant le Parlement. Point numéro 1, il va y avoir des dépenses. L'accélération écologique, l'accompagnement des chômeurs, la dépendance, les EHPAD, l'école, la santé. Et bien sûr, il faudra compenser la disparition de la taxe d'habitation, sans oublier les 5 milliards de baisses d'impôts. La route est droite, la pente est forte, en tout cas la pente des dépenses. Et justement, comment on finance ? Faire des économies, sur quoi ? Sur qui ? Ou alors laisser filer le déficit. On est resté dans le flou et du coup, depuis mercredi, chacun, selon sa chapelle, cherche son loup. Point numéro 2, les retraites. Alors là, pas flou du tout, hein, c'est très clair. L'âge légal, on vous l'a dit, ne bougera pas. Promesse de campagne du candidat Macron, 62 ans, la borne est intouchable. Mais rien n'interdit d'en poser une autre de borne, hein, un peu plus loin. Et voilà donc l'âge d'équilibre. On pourra partir à 62 ans, mais absolument. Ça sera juste moins intéressant. Décote, surcote, bonus, malus, on verra. En tout cas, âge d'équilibre, nouvelle notion. Et cette sensation que là aussi, la route est droite. Le discours, lui, il tourne encore un petit peu autour du pot.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Magecho, une émission réalisée par Lucie Lemarchand. Valentin Pérez est attaché de production. À la technique ce matin, c'est Paul Percheron qui nous accompagne. Format spécial pour le Magecho ce samedi 15 juin avec un invité fil rouge. Nous sommes avec lui jusqu'à 10h. Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du département d'économie à l'école normale supérieure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de poser votre regard sur toute l'actualité avec nous. Alors justement, le discours de politique générale, comment est-ce que vous avez compris ce qui est un changement de pied finalement sur l'âge de la retraite ?
Bon, alors, la question de l'âge de la retraite, c'est évidemment crucial puisque c'est sans doute la grande mesure que ce gouvernement pourra léguer à la postérité. C'est un changement radical de la façon de concevoir la manière dont les Français cotisent avec un régime universel, unique, qui nous rapprocherait d'un modèle, disons, suédois. Donc c'est très important, à la fois pour ce que ça signifie pour les gens et aussi pour ce gouvernement. Alors on découvre en fait, au fur et à mesure que le débat sur cette question avance, un énorme malentendu. Parce que la manière dont ce système par points a été annoncé, c'était de dire, vous serez totalement libre de faire ce que vous voulez, vous accumulez des points, à 50 ans vous en avez marre de travailler parce que vous avez eu une période de 20 à 40 très active et vous voulez passer à autre chose, vous pourrez le faire parce que le système par points mécaniquement vous donnera ce à quoi vous avez droit. Donc c'était annoncé comme un régime de liberté nouvelle. Et on découvre que ça ne fonctionne pas comme ça, que si demain matin tous les Français décidaient de partir à 50 ans, ça coincerait tout simplement. Non pas parce que partant à 50 ans, ils n'auraient pas accumulé suffisamment de points qui leur permettent à 50 ans d'avoir peut-être une demi-retraite, mais parce que c'est un système par répartition qui oblige, avec leur cotisation, de payer ceux qui ont décidé de partir à 65 ans, pour donner cet exemple.
Donc c'est le passé qui nous rattrape ?
On découvre une petite entourloupe sur ce concept de retraite par points. On fait ce qu'on veut, mais à condition de faire comme les autres, et surtout à condition de faire assez pour payer les retraites de nos aînés. Je crois que c'est ça qu'on est en train, peut-être même le gouvernement, peut-être même ceux qui ont pensé ce système, de découvrir. Ça n'est pas un système de liberté intégrale. Et c'est dommage. Je pense qu'il faut réfléchir à la manière de redonner à ce système son inspiration initiale, que les Français décident librement quand ils en ont assez de travailler, en en tirant évidemment toutes les conséquences pour leur retraite. Si on décide tous d'arrêter de travailler à 50 ans, en 2050-2100, il n'y aura pas de contradiction. On aura moins cotisé, on touchera moins. C'est la transition qui est difficile, il faut y réfléchir davantage.
Ouais. Et c'est peut-être pour ça, et c'est sans doute pour ça, parce que vous nous expliquez que tout à coup, l'âge de la retraite, ça devient quelque chose
réapparaît. Alors que ça n'était pas prévu, y compris, encore une fois, dans les instigateurs du programme d'Emmanuel Macron, il n'était pas question de toucher à l'âge de la retraite, parce que ça devenait inutile. C'était ça l'idée. Elle était malheureusement fausse.
Alors Daniel Cohen, je vous présente, mais vous les connaissez, les débatteurs. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et bonjour Emmanuel Lechypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Bon, vous, votre débat cette semaine, l'actu, ce sont les créations d'emplois. Franchement meilleur que ce à quoi on pouvait s'attendre. C'est encore un bon chiffre sur le marché du travail. Est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose là? Et pour le dire cash, est-ce que la flexibilité, les ordonnances, eh ben ça fonctionne? Ça sera ça votre débat. Au programme également, visite du tout nouveau musée de l'éco à Paris. C'est d'ailleurs le seul en Europe. Ça s'appelle Citeco. Et vous allez voir, notre reporter Anaëlle Verzo va nous y emmener tous ce matin. Vous comprendrez. Et bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Alors nous aussi, comme Citéco, nous sommes interactifs. Philippe, notre auditeur, vous a donc écrit.
Oui, et Philippe, qui va fêter ses 62 ans, se demande s'il y a un âge limite pour toucher ses allocations chômage.
On y revient, on se retrouve juste avant 10h. Tout de suite, le débat. 2019 sera-t-elle une bonne année pour l'emploi? En tout cas, ça commence bien.
Le chômage baisse.
12 juin 2019.
Il a même atteint son plus bas niveau depuis 10 ans.
Édouard Philippe, Premier ministre.
Avec 93 000 emplois créés au premier trimestre. Les chiffres publiés encore ce matin par l'INSEE montrent que nous sommes sur la bonne voie.
Le taux de chômage en France, c'est une bonne nouvelle, est au plus bas depuis 10 ans.
C'est une bonne nouvelle, 8,8% de la population active.
Ça confirme une tendance, on a une baisse du chômage continue.
Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique.
La croissance s'enrichit en emplois, c'est-à-dire que pour un même niveau de taux de croissance, on crée plus d'emplois. Et donc ça, alors c'est difficile de dire si c'est lié aux réformes du marché du travail qui ont été faites, ça va dans le bon sens.
Avec un cadre,
Éric Heyer,
vous faites baisser le chômage de 0,2 points chaque année. Alors bravo.
Économiste à l'OFCE.
C'est bien, il vaut mieux que ça soit en baisse qu'en hausse, mais voyez, avec 0,2, c'est pas comme ça qu'on atteint le plein emploi. Le taux de croissance qui permet de stabiliser le chômage, c'est 1,2. Donc vous voyez, on est juste au-dessus.
L'économie française a créé énormément d'emplois ces trois dernières années.
François Villeroy de Gallo,
entre 2016 et 2018,
gouverneur de la Banque de France.
Mais je crois que là, il faut s'arrêter une minute. Ça reste un des sujets de l'économie française. Probablement le premier défi que nous avons, c'est que le chômage est trop élevé et que dans le même temps, les entreprises ont du mal à recruter. Là, il y a quelque chose qui ne va pas.
Si on en croit le nouveau baromètre qui a été mis au point par le géant de l'intérim Adecco, d'ici à la fin de l'année, les entreprises prévoient de recruter 3,5 millions de salariés.
On nous a promis 3,5 millions d'emplois créés.
Philippe Martinez.
C'est quoi ces emplois?
Secrétaire général de la CGT.
C'est des emplois précaires, c'est de l'intérim, c'est des stagiaires. C'est-à-dire que derrière les créations d'emplois, il faut regarder la nature de l'emploi. Parce que la précarité, on en souffre.
Aujourd'hui, 87% des contrats qui sont signés, ce sont des CDD ou de l'intérim.
Sibeth Ndiaye.
Donc ça veut dire qu'on dit à des Français, éternellement, vous êtes condamnés à avoir des CDD de un jour, de deux jours, de une semaine.
Porte-parole du gouvernement.
Au-delà des économies, je crois que le plus important, c'est de retenir dans la réforme qui sera présentée la semaine prochaine, que notre objectif est de réduire la précarité au travail.
Emmanuel Lechypre. Alors là, on a eu beaucoup de chiffres dans ce zapping sonore. Est-ce que vous pouvez nous faire la photo, vous? Est-ce qu'il se passe quelque chose si on regarde les chiffres sur le marché du travail?
On a eu les chiffres de création d'emplois du secteur privé pour le premier trimestre. Alors moi, j'aime bien ce chiffre parce que je trouve que c'est presque le plus pur, en fait, pour donner la température du marché du travail. C'est pas le chiffre du chômage qui est toujours perturbé par tout un tas de paramètres, la population active, etc. Il n'y a pas tout ce qui est contrat aidé, public et tout. Là, c'est vrament l'emploi du secteur privé. Et là, 90 000 créations d'emplois au premier trimestre. Songez que c'est ce que l'INSEE prévoyait pour l'ensemble du premier semestre, sur les 6 premiers mois de l'année. Non, sur les 3 premiers mois, on a ça. Et pourtant, on voit les chiffres de croissance, ils sont pas meilleurs que en 98, par exemple. Là, on est à 0,3% de croissance par trimestre et on crée 90 000 emplois. Songez qu'en 2017, il fallait deux fois plus de croissance pour créer 90 000 emplois. Alors, c'est pas un hasard, parce qu'il y a aussi plein d'autres bons chiffres. Quand vous regardez, par exemple, le halo du chômage qui diminue.
Qu'est-ce que c'est le halo du chômage?
Qui sont pas vraiment considérés comme des chômeurs au sens strict du Bureau international du travail, mais qui cherchent quand même du travail. On voit que le nombre de gens embauchés à temps complet augmente, que le nombre de CDI augmente. Et quand vous regardez ce qu'on appelle le contenu de la croissance en emploi, eh bien, il est plus riche. Si vous regardez les travaux de Rexecon, par exemple, ils vous disent, depuis 2015, prenez les services marchands qui sont quand même la grosse machine à créer des emplois. Vous voyez que vous avez à peu près 1% de croissance de l'activité dans les services marchands, c'est 1% de croissance de l'emploi, c'est deux fois plus qu'avant 2015. Donc il se passe bien quelque chose quand même sur le marché du travail.
Une croissance plus riche en emploi,
plus riche en emploi.
Ça veut dire quoi? Parce que les gens qui entendent ça au petit déjeuner.
Ça veut dire que pour un niveau de croissance donné, vous avez tant de niveaux de création d'emploi. Quand la croissance est plus riche en emploi, c'est-à-dire qu'avec le même niveau de croissance, vous créez encore beaucoup plus d'emplois. Alors ça, on verra son interprétation. Moi, je reviens un petit peu sur la photo de départ, parce qu'on nous dit, regardez, c'est magnifique,
spectaculaire,
parce que l'industrie repart. L'industrie repart, enfin des créations d'emplois dans l'industrie qu'on n'avait pas connue. Du coup, j'ai regardé les secteurs un peu qui étaient dynamiques sur l'industrie. Je m'aperçois quoi ? Production, distribution d'eau, c'est le premier secteur le plus dynamique. Et le deuxième, c'est matériel de transport. Bon, est-ce que ça, c'est le signe d'un renouveau industriel de la France ? Pas vraiment, surtout quand vous regardez la part des emplois industriels dans l'ensemble de l'emploi total. C'est vrai qu'il y a une petite reprise de la dynamique de l'emploi industriel, mais elle reste largement inférieure à la dynamique de l'emploi total. Ce qui fait que la part des emplois industriels qui étaient de 14% en 2010, aujourd'hui de 12%, et ça n'arrête pas de diminuer. Donc on voit que l'industrie, c'est pas tellement ça. Comme Emmanuel l'a dit, c'est quoi la dynamique de l'emploi dans tous les pays industrialisés un peu importants, dans les vieux pays industrialisés? C'est les services. Du coup, j'ai regardé, c'est quoi les services qui nous donnent un petit peu de dynamique de l'emploi? Alors le trio de tête, c'est services informatiques, services juridiques aux entreprises, information et communication. Ça veut dire quoi? Ce que les économistes appellent le B2B, le service des entreprises aux entreprises. Parce que dans les stats du premier trimestre, on a aussi l'enseignement, la santé, l'hébergement médico-social. Tout ça, la croissance dans l'emploi, elle est faible, nulle, voire négative. Tout ce qui intéresse les gens, en fait, là, ça ne crée pas d'emploi. Et là, je trouve que c'est pas si terrible que ça, finalement.
Non, mais il y a un côté bouteille à moitié vide, là, chez Christian. L'industrie, c'est pas vrai. L'industrie, pour retrouver quasiment 20 000 créations d'emplois sur un an dans l'industrie, il faut remonter au début des années 2000.
Mais ça va moins vite que le reste de l'économie,
Emmanuel.
Oui,
mais on est dans une économie de services, Christian, maintenant. Voilà. C'est pas anormal. Attendez, on, pour la première fois, encore une fois, l'année dernière, on a créé plus d'usines en France qu'on en a détruit. Donc moi, je pense qu'il se passe quelque chose dans l'industrie.
Ça se joue sur quelques unités, Emmanuel, ça se joue sur quelques unités.
Non, mais attendez, quand vous avez détruit des emplois année après année, alors on en a détruit beaucoup, on part de pas grand-chose, mais il se passe quand même quelque chose dans l'industrie, il ne faut pas le nier. Dans la construction, on crée aussi beaucoup d'emplois, 40 000 sur un an, alors que le niveau d'activité n'est pas beaucoup plus spectaculaire.
Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on a finalement enrichi la croissance en emploi, qu'avec un niveau de croissance relativement faible, on arrive à créer plus d'emplois? Non. Rappelez-vous les commentaires des conjoncturistes de l'année dernière. Je ne vais pas citer les chroniques d'Emmanuel Le Chip de l'année dernière.
Qui sont excellentes.
Mais enfin, les conjoncturistes, ils ont une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire qu'ils nous racontent le trimestre d'après, l'inverse du trimestre d'avant. Mais ce n'est pas grave, c'est normal, ça a changé. Qu'est-ce que nous disaient les conjoncturistes l'année dernière? Mais sur les trois premiers trimestres de 2018, c'est dingue. On a beaucoup de croissance, on n'a pas d'emploi. Mais c'est dingue. On a perdu l'enrichissement de la croissance en emploi. Boum, on a un trimestre qui nous dit l'inverse. Vous avez vu comment la croissance est riche en emploi? Ils ont changé. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe au premier trimestre 2019? C'est juste que sur les trois premiers trimestres de 2018, on était en dessous de la moyenne et il y a un effet de rattrapage. Première explication. Et deuxième explication, je suis désolé, c'est pas la flexibilité du marché du travail de Macron ou de la loi El Khomri. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais Emmanuel Macron, il a craché 11 milliards de pouvoir d'achat, dont spécifiquement pour fin décembre 2018 et début 2019, la fameuse prime exceptionnelle défiscalisée que les entreprises ont pu verser. Et là, vous avez vous avez un chiffre de la Sécu qui est absolument incroyable. La masse salariale, d'accord, qui est soumise à cotisation sociale, donc pas les choses défiscalisées comme la prime Macron, elle a cru au premier trimestre de 0,1%. Quand vous rajoutez la prime, ça a cru de combien? 1,4%. La différence, elle est là. Qu'est-ce que nous disent les chiffres de l'emploi du premier trimestre? La politique de la demande, ça marche pour créer des emplois.
Mais, Emmanuel Lechypre, interprétation de Christian.
Je comprends pas très bien parce que d'abord, la réactivité, elle est pas à ce niveau-là. C'est pas parce que vous avez touché une prime. D'abord, la moitié des gens qui ont touché cette prime exceptionnelle, c'est ceux qui travaillent dans les grosses boîtes, etc. La moitié,
c'est pas quand ça fait du pouvoir d'achat, c'est inégalitaire.
La moitié l'ont épargné. Et Christian a passé son temps à nous expliquer que les emplois qui avaient été créés au premier trimestre, c'était pas du tout dans les secteurs qui intéressaient les Français. Donc l'explication, elle est pas là. La vraie rupture de tendance, c'est 2015. Hein, 2015. Voilà. À partir de 2015, vous avez quand même toute une série de réformes qui vont du pacte de responsabilité au CICE, le crédit d'impôt compétitivité et emploi. Si vous enchaînez les réformes El Khomri, les réformes Pénico, etc.
Attendez, là, on est en train de parler de tout ce qui baisse le coût du travail et de tout ce qui flexibilise le marché du travail.
La réalité, c'est que ça marche. La rupture. Reprenez encore une fois ces travaux de Rex et Code. Vous voyez bien que c'est depuis 2015 que la croissance s'enrichit en emploi. Au-delà des aléas, je suis d'accord avec Christian, de 2018, etc. Donc, on a quand même là l'ensemble de réformes qui bouleversent le plus le marché du travail depuis les lois Auroux de 1982. Et la réalité, c'est que ça finit quand même par avoir un petit impact. Il n'y a pas que ça, mais ça a quand même un impact.
Un impact sur la mentalité, d'après vous, des chefs d'entreprise qui, du coup...
Aujourd'hui, le problème des chefs d'entreprise, c'est plus de savoir est-ce que j'ai l'angoisse d'embaucher ou pas, c'est de l'angoisse de se tromper. C'est déjà une étape supplémentaire. Regardez le nombre, la conflictualité au prud'homme qui diminue, etc. Il y a quand même un certain nombre de freins à l'embauche qui ont été atténués par toutes ces réformes. C'est indiscutable.
Sauf que venez sur le site d'Alternative Économique lire la dernière chronique de Michel Husson qui vous expliquera avec 5 études économétriques à l'appui que les baisses de cotisations sociales n'entraînent pas une progression des embauches. Donc là, je suis désolé, c'est la science économique à laquelle Emmanuel aime bien se référer généralement, qui nous dit l'inverse.
Mais il n'y a pas que ça dans toutes les réformes qui ont été faites. Il n'y a pas que les réformes qui ont baissé la baisse du coût du travail. La réforme sur le plafonnement des indemnités, licenciement, etc. Ça a joué. C'est un climat plus positif. En tout cas, les patrons le perçoivent comme ça.
Donc, différence d'appréciation. Alors, dans ce contexte-là, on a quand même un paradoxe. On a des signaux qui sont plus au vert et puis on a un chômage qui baisse plus lentement. Est-ce que ça s'explique, ça ? Qui baisse lentement ? Petite moue de chaque côté du micro.
Oui, parce qu'il y a encore plein de raisons qui expliquent que la France a un niveau de chômage élevé. Vous avez la démographie qui est plus dynamique. Vous avez toujours cette affaire d'indemnisation du chômage qui fait que vous n'avez pas toujours intérêt à reprendre un travail. Vous avez l'effet de ciseau qui existe toujours entre un coût du travail qui reste trop élevé par rapport à une qualification des chômeurs qui est quand même trop faible. Hein. 80% des inscrits à Pôle emploi ont au mieux le baccalauréat. Vous avez la trop faible incitation financière à reprendre un travail, on l'a dit. Le trop faible taux d'emploi des seniors, qui est un phénomène français. Vous avez les effets de seuil qui sont toujours là. Et puis, vous avez aussi le manque de concurrence sur le marché intérieur. Rappelons-le, si on avait un niveau de concurrence équivalent à celui des grands pays de l'OCDE, on aurait 500 000 à 1 million d'emplois supplémentaires aujourd'hui.
Daniel Cohen, directeur du département d'économie de l'école normale supérieure. Maintenant, le prof, oui, vous avez entendu. Enfin, là, voilà, on a deux avis. Est-ce
oui,
que vous,
mais,
comment
mais,
vous expliquez, vous ? Est-ce que
d'abord,
c'est spectaculaire ?
Cette discussion témoigne évidemment de l'incertitude où on est aujourd'hui de cette situation sur le marché de l'emploi. Comme disait Christian, il nous faut quand même encore un peu de recul pour apprécier les choses. Ce qui est certain, c'est qu'on a eu en 2017 une année de très très forte création d'emplois. Enfin, c'est l'année où Hollande aurait aimé pouvoir être président. À un an près, son pari se réalisait. Donc une croissance qui repartait de 2,3 et puis des créations d'emplois autour de 350 000. Et puis, on fait passer les lois diverses et variées qui sont destinées à susciter l'embauche davantage encore. Et puis, juste à partir de ce moment-là, pas de chance, l'embauche ne cesse de décliner. Donc effectivement, il y a un profil infra-annuel très bizarre, comme en V. Dès qu'on vote les lois pour que ça repart, hop, ça s'effondre. Et puis, ça repart. Pas juste ce trimestre, ça repart depuis le milieu de l'année dernière. Donc on voit quelque chose en V, comme si les entreprises, au fond, avaient eu une période d'incertitude et d'attente et qu'elles recommençaient à embaucher. Donc, il y a des effets de compensation par rapport à ce creux de l'année dernière qui fait qu'il est manifestement trop tôt pour juger de la question de savoir si c'est structurel ou si c'est véritablement une reprise de l'emploi.
Mais la question, c'est est-ce que la flexibilité, ça marche ?
Alors,
c'est ça la question de fond.
Si c'est ça uniquement la question, alors il y a une statistique qui permet de trancher, c'est le contenu en CDD et en CDI des embauches. Les mesures qui ont été prises étaient destinées à favoriser les embauches en CDI. On se rend compte que ça ne suffit pas, d'où le bonus-malus. Et d'une certaine manière, on se demande si, quand la flexibilité a été introduite, flexibilité entre guillemets, avec le plafonnement des indemnités prud'homales, on n'aurait pas dû aller beaucoup plus loin sur les CDD, en faire un régime d'exception, plutôt qu'une norme qu'on essaye d'entailler aujourd'hui avec des compensations dans les secteurs. Mais quand on regarde cette statistique, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que depuis, je sais pas, 10 ans ou 20 ans, l'essentiel, 87% en moyenne des embauches se font en CDD et un tiers des CDD d'un jour ou quelques, enfin moins d'un mois. Donc ce sont des choses qui sont incroyables. On embauche pour si peu de temps. Qu'est-ce qui se passe depuis ? Le contenu en CDI des embauches a augmenté, mais on reste quand même sur 17% de CDI, 16% pardon, de CDI et 84% de CDD. Ça veut dire, oui,
donc
ça a évolué.
Donc les embauches plus en CDD qu'en CDI, ça va un peu mieux pour les CDI.
Oui, un tout petit peu mieux. On continue massivement d'embaucher en CDD. Et c'est ça, au-delà de l'indicateur de croissance des emplois, évidemment, qui est essentiel, qu'il faut suivre aussi parce que c'est là qu'on verra la trace des réformes qui ont été faites. Au fond, les entreprises, malgré les assurances qu'on leur a données et qu'elles pourront continuer de licencier les gens, restent très prudentes dans les contrats qu'ils offrent aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Et ça, c'est un autre indicateur qui doit être estimé.
Emmanuel Le Chip.
Alors, il y a un autre phénomène qui complique un peu la lecture des comportements d'embauche, c'est quand même les fameuses pénuries de main-d'œuvre, hein, c'est-à-dire la difficulté à recruter. Vous avez la moitié des secteurs et vous avez la moitié des entreprises qui disent qu'elles ont du mal à recruter, et on voit que ça génère. Alors, pour le coup, ça pousse les entreprises, par exemple, à être un peu moins exigeantes sur les profils de recrutement et à aller un peu plus vers la signature de CDI. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait une augmentation du nombre de CDI, c'est soit cette idée que quand vous trouvez quelqu'un, vous voulez le fidéliser et ou bien est-ce que c'est lié effectivement à ces réformes-là? Ça complique encore un petit peu la vie.
Les premières stats d'avril sur la sécurité sociale, pardon, juste pour dire qu'avril, déjà, il y a moins de création d'emplois, ça baisse.
Ouais, c'est vraiment le premier, exactement, tout à fait. C'est vraiment le premier trimestre et déjà, c'est en train de régresser. L'arbitre de paix de toutes ces discussions sur les tensions sur le marché du travail, qu'on a du mal à recruter, etc., au bout du compte, ça sera quand même l'inflation salariale et l'inflation tout court. Aux États-Unis, on a eu une très longue période de croissance et en fait, il n'y a pas eu d'inflation, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les idées qu'on avait du chômage était en réalité totalement perturbée, que derrière la statistique du chômage, il y avait le halo, mais même au-delà, beaucoup de gens qui sont découragés et qui reviennent. Là, il ne faut pas oublier, on est dans un monde sans inflation. Le dernier chiffre d'inflation en France, c'est moins de 1%. L'inflation sous-jacente, c'est 0,5%. Il n'y a aucun signe de tension, ni sur le marché des biens, ni sur le marché du travail, qui devrait véritablement nous inquiéter. Donc, il y a encore de la marge, ne pas trop être obsédé par la statistique du taux de chômage, parce que derrière, il y a beaucoup de situations de précarité, de fragilité qui ne se retrouvent pas dans les statistiques. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur les facteurs de blocage. On en parle toujours et finalement, on s'arrange. C'est en effet de savoir si cette dynamique, bon, quelle qu'en soit la cause, va continuer ou si c'est juste un retour après un creux du début de 2018. On en saura plus dans 3 mois, 6 mois. Voilà.
Allez, on sera là pour regarder. Juste une dernière question, Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chip. Dans ce contexte, la réforme de l'assurance chômage, est-ce que ça peut faire baisser plus vite le chômage?
Non, parce que ce qui attend les chômeurs, c'est ça va être très difficile. Il va falloir travailler 6 mois au lieu de 4 et sur une période de 2 ans au lieu de 28 mois. Donc ça veut dire quoi? On durcit les conditions d'accès.
Il n'a pas dit, Édouard Philippe. Il n'a pas confirmé dans son discours.
Il lui dit qu'il a même déjà fait les calculs. Le fait de passer de 4 mois à 6 mois, ça va faire gagner 160 millions d'économies. Par contre, ça va toucher 240 000 personnes. Donc, on va durcir les conditions. Vers qui? Vers ceux qui ont le plus de mal à revenir vers l'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des économies en taillant dans les pauvres recettes, enfin, les pauvres distributions de revenus qui permettent aux plus défavorisés de s'en sortir.
Emmanuel Le Chip.
La question du curseur, elle est fondamentale. Parce que
Quel curseur,
où est-ce que vous mettez le durcissement des conditions d'indemnisation du chômage? C'est vrai que, honnêtement, aujourd'hui, sur les plus hauts salaires, hein, les gens qui touchent plus de 5 000 euros au chômage par mois, etc., on voit bien que c'est des cadres qui sont sur un marché sur lequel il n'y a pas de chômage et qui profitent un peu du système.
C'est des contributeurs nets. Ils donnent plus que ce qu'ils reçoivent.
Mais c'est vrai, parce qu'on est dans la logique assurantielle. Mais la réalité, c'est qu'ils profitent un peu du système. Et on voit bien que c'est eux, d'ailleurs, qui reprennent le plus un travail à quelques jours de la fin de la durée d'indemnisation.
Non,
mais
c'est très peu de cas.
C'est vrai.
Parce que ceux qui restent au chômage, en fait, 75%, c'est des plus de 50 ans qui ont du mal à retrouver du boulot. Ils restent pas tranquilles à la maison.
Oui, voilà, on est dans le symbole.
Par contre, la réalité, c'est que vous avez aussi les études qui vous montrent que pour les plus, pour ceux qui sont les chômeurs les moins qualifiés, etc., si vous diminuez l'indemnisation, si vous durcissez l'indemnisation, vous retardez la reprise d'un travail. Parce que, ça coûte cher de chercher un emploi. Il faut faire garder ses enfants, il faut se déplacer, etc. Et puis surtout, vous incitez ceux qui sont plus qualifiés à reprendre des boulots pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, et vous rejetez encore vers le chômage les populations les moins qualifiées. Donc ça fragilise.
Alors Daniel Cohen, sur cette réforme de l'assurance chômage,
Derrière ces réformes, il y a la dette que l'assurance chômage a accumulée au cours des 10 dernières années. Il y a une dette de 40 milliards. On veut la faire rembourser par les chômeurs eux-mêmes. Or, c'est injuste et c'est absurde. On a connu de 2008 à 2016 une crise exceptionnelle. On n'en a jamais connu d'autres comme celle-là depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un événement unique et c'est un événement qu'il faut purger. Demander aux chômeurs des 10 prochaines années de payer la dette qui a été accumulée au cours des 10 dernières années, c'est ridicule. Et cette année, comme vous savez, on va doubler en quelque sorte le coût du CICE. On a dépensé 20 milliards au titre de l'ancien dispositif et 20 milliards au titre du nouveau. Et moi, je proposais que ces 20 milliards soient économisés pour réduire de moitié la dette de 40 milliards qui a été accumulée par l'assurance chômage. Ça nous aurait redonné de la respiration. Derrière tout ça, il y a cette absurdité, encore une fois, de vouloir purger par les chômeurs des 10 prochaines années ce qui a été accumulé au cours des 10 dernières années. Il faut sortir de cette logique.
Bon, pour le moment, je vous emmène au-delà des frontières de la France, si vous le voulez bien. On sort de la France. Les nuages s'amoncellent. Regardez la guerre commerciale qui s'amplifie. On a appris que des centaines de chefs d'entreprise américains ont écrit à Donald Trump pour tirer la sonnette d'alarme, pour lui demander de calmer le jeu. Eh bien, voilà l'état d'esprit de Donald Trump. Écoutez.
Tous les autres pays profitent de nous. Sans droit de douane, on serait dans une situation de désavantage compétitif, vous n'avez pas idée. Aujourd'hui, les gens ont perdu l'habitude des droits de douane, mais c'est une bonne chose quand c'est vous qui avez l'argent. Tout le monde essaie de nous prendre notre argent, la Chine. Et le deal avec la Chine fonctionnera, et vous savez pourquoi ? Justement grâce à ces droits. En ce moment, la Chine est totalement décimée à cause des entreprises qui s'en vont dans d'autres pays, y compris le nôtre, pour ne pas payer les droits de douane. Et les Chinois vont signer, ils n'ont pas le choix.
Bon, le chef de l'État américain, toujours très confiant, Daniel Cohen, les nuages noirs sur l'économie mondiale.
Nuages noirs d'abord sur Trump lui-même, parce que la croissance économique aux États-Unis est en train de ralentir. Il a mis les gaz à fond quand il a été élu, ce qui est évidemment ridicule, puisqu'à ce moment-là, l'économie américaine n'en avait pas besoin. Et maintenant, le gaz va manquer. Or, les élections, c'est l'année prochaine. Il va donc être obligé, puisqu'il ne pourra pas faire un plan de relance là d'ici l'année prochaine, de gesticuler toujours plus et plus pour montrer à son électorat qu'il ne les a pas oubliés. C'est ça qui m'inquiète. C'est ce croisement entre la croissance économique et le taux de toxicité des mesures que Trump va annoncer. Donc oui, moi je suis inquiet sur la croissance du commerce mondial, sur les mesures de rétorsion qu'il va prendre à l'égard du Mexique et autres, ou de la Chine, et puis aussi au Moyen-Orient, tout le tam-tam qu'il est en train de créer, tout simplement pour rester en haut de l'actualité.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Magéco, format spécial ce samedi, une heure en compagnie de l'économiste Daniel Cohen. Emmanuel Lechypre, Christian Chavagneux, je suis sûre que vous êtes surpris parce que je ne vous ai pas dit au revoir. Pour une fois, vous ne bougez pas, je ne vous ai pas dit à la semaine prochaine. Vous restez parce qu'on va parler de votre nouveau terrain de jeu, le château de Poudlard de l'économie. Et c'est notre reporter Anaël Verzo qui vous y a emmené. Bonjour Anaël.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Bon, oui. En fait, ça s'appelle pas Poudlard, hein, on est d'accord.
Non, ça s'appelle pas Poudlard. Mais c'est vrai que de l'extérieur, ça ressemble beaucoup au château d'Harry Potter. C'est un bâtiment magnifique, d'ailleurs classé monument historique. La façade est en briques rouges, c'est une sorte de palais style néo-renaissance, féerique.
C'est le nouveau musée de l'économie, ça s'appelle Citeco.
Voilà. Paris. Et ça se situe donc à Paris, dans le très cossu 17e arrondissement, tout près du parc Monceau. Pour la petite histoire, c'était l'hôtel particulier d'Émile Gaillard, qui était banquier, c'était même le banquier de Victor Hugo. Et en 1923, la Banque de France l'a racheté pour en faire sa succursale. Et donc depuis hier, c'est un musée de l'économie, 2400 m² financé par la Banque de France. Et alors pour le visiter, j'ai emmené les indispensables, Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux. Allez, on y va, c'est parti. Première salle, la salle des échanges. C'est quoi ?
Ils font tomber des blocs d'or. Et voilà,
regarde. C'est des lingots qui tombent. Des lumières, hein, c'est des lumières.
Oui, oui, c'est pas des vrais lingots. Hein.
Ça, c'était la salle des coffres. Ça,
c'était la salle. La vraie salle des coffres de la Banque de France.
Ça, c'était intégré au coffre.
Non, mais voilà, quand on ouvre un coffre...
Ce bruit magique. Qu'est-ce que vous avez repéré là, Christian ?
Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les premières monnaies qui ont existé dans le monde. Donc, on en parle souvent dans le livre d'économie, mais les coquillages...
Qui viennent de Chine, d'Inde.
Qui viennent de Chine, là, qui sont 3000 ans avant Jésus-Christ. La première monnaie que les gens utilisaient pour échanger, c'était ça. C'est quand même assez impressionnant.
Ah, bonjour.
Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors je suis Xavier Limagne, je suis muséographe pour la Banque de France et sur le projet de Cité de l'économie depuis 10 ans.
On vous suit. Oui. Alors voilà. Made in partout.
Made in partout, made in France. Alors là c'est un espèce de scanner d'aéroport où on peut mettre un produit, par exemple là je vais mettre un jean, on va le passer sur le scanner et on va voir
le jean qui s'affiche, le jean que vous avez passé donc à l'intérieur du scanner. Voilà. Qui est en train d'être scanné et qui s'affiche sur l'écran qui est devant nous.
Où il est conçu. Alors, le design, il est conçu en Angleterre, Royaume-Uni.
C'est le jean qui est scanné.
On s'intéresse coton. Maintenant au coton. Il vient du Bénin. Mais le tissage, en Italie. Le lavage du tissu, en Tunisie. Ah, la teinture, elle vient d'Allemagne. Le fil, d'Irlande.
Eh ben, et après, il y a une explication ou
non. Non. C'est juste pour faire prendre conscience que Made in quelque part ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui.
Alors, peut-être une petite réaction, ouais. Là, Christian, Emmanuel. Sur cet écran
C'est l'écran typique dont se sert Emmanuel dans le débat du samedi matin pour faire voir que le protectionnisme, c'est pas bon, parce que dans tous les éléments exportés, il y a plein d'éléments importés. Donc si vous fermez vos frontières, en fait, vous vous privez des matières premières qui servent à exporter. Alors, cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de revenir vers une économie un peu plus locale.
Emmanuel, une réaction, là, vous avez été un peu taclé par Christian.
Non, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un grand perdant.
Ah.
C'est l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la rationalité économique d'aller chercher les facteurs de production, les matières premières, le travail le moins cher possible à travers le monde, on voit qu'effectivement, ça permet d'avoir un jean peut-être meilleur marché que s'il était fabriqué près de chez nous. Mais à quel coût environnemental?
Alors peut-être une petite étiquette, ça pourrait... avec écrit à côté, coût carbone...
C'est un peu le parti pris de cette muséographie, c'est-à-dire ça pose les choses. On pense que les visiteurs ont un cerveau et que face à cet élément d'exposition en lien avec une photo où on montre des porte-conteneurs, la question du transport et de la taxation des transports va lui venir, il va avoir envie d'en discuter.
Acteur financier, dans la peau d'un banquier.
Les acteurs de l'économie.
Ah.
On arrive maintenant dans la plus belle pièce du bâtiment, et cette pièce est évidemment consacrée au marché, n'est-ce pas?
Ça, c'est plus important.
Oui, c'est-à-dire que l'État, c'est bien, mais le cœur battant du fonctionnement de l'économie, c'est quand même le marché et la confrontation permanente de l'offre et de la demande. Et d'ailleurs, l'offre et la demande, c'est le premier panneau.
Mais
pour moi, Christian, c'est la seule erreur de Citeco. Parce qu'on se retrouve devant une sorte de balance.
Alors là, donc, on est devant cette balance.
Donc la flèche de la balance est au milieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas... les prix sont normaux. Et dès qu'on met un petit peu de demande, si on tourne un petit peu les manettes pour mettre de la demande, on a tout de suite beaucoup d'inflation. Et ce qui est ridicule aujourd'hui, c'est qu'on a eu beaucoup de politique de relance de demande et on a zéro inflation. Donc là, ce
c'est
jeu-là...
Bien que ça marche pas.
Ce jeu-là ne fonctionne pas.
C'est bien que ça marche pas.
Ça ne marche pas dans le sens où ça n'augmente pas les prix. Donc là, ce jeu, aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait du fonctionnement de l'économie, il est faux.
Évidemment, la question, c'est de savoir si le discours de Citeco est partisan. Marc-Olivier Strauss-Kahn est le président du conseil scientifique de Citeco.
La pluralité des vues est quelque chose d'important pour nous. Et je vais prendre un exemple emblématique. Avant d'être tué... En 2015, à Charlie Hebdo, Bernard Maris, membre du Conseil général de la Banque de France, nous a proposé des modifications et nous les avons intégrées. Il nous a demandé en particulier d'insérer les utopistes, qui est une pensée économique et qui n'était pas dans notre fresque de l'histoire de la pensée économique, car il n'a pas eu de forte descendance. Mais nous les y avons mis en hommage aussi pour lui.
Alors, Christian.
Ça, en termes d'équilibre intellectuel, je trouve que...
Alors, c'est une histoire des pensées économiques.
C'est une histoire des pensées économiques, déjà pas de la pensée économique, ce qui montre bien qu'en économie, il y a des gens qui pensent des choses très, très différentes.
Marx, l'école historique.
De Smith à Marx, Ricardo à Karl Menger, on a bien évidemment
Schumpeter.
John Maynard Keynes, le plus grand économiste qui ait jamais existé, et aussi Milton Friedman. C'est assez équilibré.
Pour la séquence auditeur de Raconte-moi l'écho.
C'est un comité constitué d'économistes et de journalistes bénévoles qui a travaillé sur le projet. Y a-t-il eu des discussions, des désaccords, des débats acharnés sur la manière dont il fallait parler de l'économie au grand public? Agnès Benassi-Kéré, professeure d'économie à l'école d'économie de Paris, a participé au projet.
Je vais vous décevoir, mais il n'y a pas eu beaucoup de controverses, peut-être à la marge. La manière de présenter l'entreprise, par exemple... Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur la fiscalité, sur les problèmes... Bon, il n'y a pas grand-chose sur les multinationales, sur les critiques de la mondialisation, il n'y a pas grand-chose, c'est vrai.
Pour quelle raison, d'après vous, c'est un choix qui a été fait ou...
Mais parce que pour critiquer la mondialisation, il faut déjà la comprendre, hein. C'est ça que j'essaie de vous dire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne commence pas par la critique. Moi, je me souviens d'un livre de géographie de mon fils, alors il me dit, fais-moi réciter, j'ouvre le chapitre mondialisation, première phrase, c'était la première phrase du chapitre. La mondialisation augmente les inégalités. Alors je lui demande, qu'est-ce que c'est la mondialisation? Il ne savait pas. Qu'est-ce que c'est que les inégalités? Il ne savait pas non plus. Donc vous voyez, si on veut faire de la pédagogie, il ne faut pas faire comme ça. Si on veut faire de la pédagogie, il faut faire pierre par pierre. Et donc je crois que c'est vraiment l'angle d'attaque de la cité. C'est donner aux gens les outils pour y comprendre quelque chose et pour ensuite pouvoir comprendre les controverses.
Et là, il y a une magnifique... presse habillée et en plus on peut les voir fonctionner de façon virtuelle. Donc sur l'industrie de la monnaie, c'est aussi c'est aussi très instructif. La façon dont on fabriquait voilà, les rouleaux de papier et tous ces beaux billets de 100 francs. Ces vieilles machines qui sont magnifiques.
Et on peut faire un billet à son effigie.
Je sais pas si ça fonctionnera.
Ça me va bien.
Ah ouais, ça serait combien d'euros aussi, je sais pas. Vous valez combien?
Un truc pratique, mais pas rien non plus, quoi. Je sais pas, 50 ou 100.
C'est des billets de 20, désolé.
Ah, c'est tous des billets de 20. Ah bon.
Ça s'appelle Citeco, c'est le tout nouveau musée de l'économie, c'est situé à Paris. Anaëlle Verzo, merci pour la visite. On peut y aller ce week-end?
Oui, ce week-end c'est gratuit, alors sinon l'entrée c'est entre 3 et 12 euros.
Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chip, il faut y aller ou pas?
Allez, oui, il faut y aller parce que ça donne envie de comprendre l'économie.
Moi j'ai eu le sentiment que vous avez... Enfin, j'y suis allée. Oui, c'est très bien, on peut le dire comme ça, non?
Ah non, mais c'est extrêmement Emmanuel. Bien, et surtout c'est à bonne distance de toutes les théories économiques, et ça va au moins pousser les gens à discuter et à débattre d'économie sans essayer de leur imposer un point
exactement.
De vue.
Et pour ceux qui se poseront des questions, on nous dit qu'il y aura des médiateurs dans chaque salle, ce que je trouve assez intéressant. Daniel Cohen, est-ce que l'idée d'un musée de l'économie, sachant que l'économie c'est quand même pas une science dure... Est-ce que ça a un sens pour vous?
Bien sûr, c'est comme musée, c'est parfait. Parce que justement, on peut voir toutes les erreurs passées, on peut voir toutes les controverses. Après, il faut le faire, il faut rendre ce musée vivant. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste rétrospectivement où on découvre que les gens se sont opposés à peu près tout au long de l'histoire de cette discipline sur des thèses plus ou moins opposées. Mais il faut comprendre justement comment transformer ce musée en une vision, de, non pas seulement du futur, mais déjà du présent.
Il y aura justement des expositions temporaires pour aller en profondeur sur des thèmes d'actualité. Vous parlez de ce qui fait progresser l'économie, les économistes, de comment ils s'opposent. Là, la dernière crise, est-ce qu'elle a par exemple changé les économistes, les clivages entre économistes? Est-ce qu'elle a bousculé votre science et la manière dont vous la pratiquez, dont vous la travaillez?
Oui, bien sûr. Juste avant la crise, les macroéconomistes, je ne vais pas donner de nom pour faire de peine à personne, mais parmi les meilleurs, les plus subtils, les plus pragmatiques, disaient « Nous sommes arrivés à un âge de grande modération. L'instabilité macroéconomique est terminée parce qu'on a régulé l'inflation, parce qu'on comprend mieux comment l'économie fonctionne. L'instabilité, elle sera microéconomique. C'est les destins individuels qui vont être évidemment très aléatoires. Réfléchissons à la meilleure façon de tirer tout le bénéfice de cette nouvelle stabilité macroéconomique au service, au fond, des personnes, des individus, des travailleurs et des entreprises. Et puis, boum, crise majeure en 2008. Ce qu'on croyait gagner, la lutte contre l'instabilité des marchés, revient à la figure du monde. Les économistes ne l'ont pas vu, mais est-ce de leur faute? Je crois que c'est surtout la faute déjà des régulateurs qui n'ont pas du tout vu que les banques, les institutions financières et autres étaient en train d'accumuler des risques systémiques considérables, entre autres choses parce qu'ils l'avaient caché en dehors de leur bilan, parce que les agences de réglementation, les agences de notation aussi avaient été complètement aveugles aux produits qu'ils étaient en train de certifier être de bonne qualité. Bref, il y a eu une formidable imposture et les économistes bon, ne l'ont pas vu davantage que les régulateurs. Ça nous amène à tout repenser, c'est-à-dire que en fait, c'est toujours la même question. La finance est déstabilisatrice. On ne va jamais assez loin quand il s'agit de la réguler. Il faut repenser ces questions. C'est les mêmes, mais dans des formes complètement nouvelles, parce qu'il y a des nouveaux acteurs, des hedge funds et autres. Il faut repenser, au fond, la vieille question de la stabilité des marchés financiers, à l'aune de cette crise. Donc oui, bien sûr, indiscutablement, c'est un coup de réveil.
Donc c'est un coup de réveil, et c'est une science qui évolue. Et les Français, parce que toute l'idée de ce musée, finalement, c'est de l'éducation à l'économie, c'est de l'ouverture. Il y a souvent ce débat, les Français seraient fâchés avec l'économie, du coup, ils débattent sur la façon dont l'économie est enseigné au lycée, par exemple. Vous les trouvez fâchés avec l'économie, vous, les Français?
Un peu, oui, parce que les Français sont un peuple, forment un peuple très politique, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas admettre qu'il y ait des effets sans cause. Ils ont besoin de penser que derrière, il y a du politique, il y a une volonté. Comme dans Diderot, on pense que tout ce qui se fait sur Terre a une cause. Et donc l'économie, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire l'économie, c'est des ruptures, des crises, des changements de paradigme, des technologies nouvelles qui surgissent un peu de nulle part. Alors on peut toujours rétrospectivement expliquer d'où ça vient, pourquoi le numérique, pourquoi les algorithmes, il y a une fonction. Mais quand même, quand ça vient, ça change complètement la façon de penser le rapport des personnes aux entreprises, au marché, au fond, au bien-être, aux biens eux-mêmes qui sont fabriqués. Et l'économie vient a posteriori. Moi, je le compare un peu au biologiste évolutionniste. Il constate que la girafe a un long cou. Il peut comprendre pourquoi ce long cou s'explique et justifie d'une certaine manière que dans l'environnement où elle est, la girafe est non pas nécessaire, mais possible. Mais ça ne lui donne aucune capacité de prédiction sur le cou de la girafe dans plusieurs millions d'années.
Donc là,
en l'économie, ça
dire,
va plus vite.
Oui, voilà. Pourquoi vous nous aidez pas plus? C'est-à-dire qu'on se tourne souvent sur les économistes pour nous. On compte sur vous, en fait, pour nous dire où sera la prochaine crise, quelle est la meilleure politique publique pour faire plus de croissance. On a tort.
Non, quand ils essayent de jouer à ce jeu-là, en fait, ils jouent au prophète, ils sortent de leur rôle. L'économiste, je ne dis pas ça pour faire plaisir à mes amis, mais il est dans leur controverse. C'est dans leur controverse que c'est intéressant. C'est jamais blanc ou noir. Il y a toujours des éléments d'ambivalence. Et souvent, quand on interroge un économiste, il se sent obligé d'adopter une posture qui dit « je vais vous dire ». En fait, il n'en sait rien, mais il sait restituer les éléments de l'ambivalence, de l'ambiguïté. Voilà, le débat sur l'emploi, on voit les pour, les contre, c'est des tensions permanentes. Il faut restituer ces tensions pour que les citoyens dans la vie publique puissent s'emparer de ces contradictions. C'est jamais ni blanc ni noir. Ceux qui disent « c'est comme ça », en général, se trompent toujours. Il faut accepter cette ambivalence de l'économiste. Il y a une blague célèbre, les économistes disent toujours « d'un côté, de l'autre », en anglais, c'est « on the one hand, on the other hand », et je ne sais plus quel homme politique disait, il faut leur couper les mains pour avoir un point de vue, parce que sinon, ils sont toujours en train de balancer. Mais c'est bien, on est toujours en train de balancer, et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas, ça veut dire qu'on est capable de comprendre la difficulté de comprendre, et c'est ça qu'il faut restituer, sans avoir l'idée qu'il y a une science qui surplombe la société. Ça devient ridicule quand on adopte une telle position, je crois.
Cette semaine, vous avez peut-être entendu Emmanuel Macron, devant l'Organisation Internationale du Travail, dénoncer un capitalisme devenu fou. C'est à peu près les mêmes mots qu'avait employé Nicolas Sarkozy en 2009. Mais bon, il y a cette idée que le capitalisme est devenu fou, qu'on le comprend plus. Est-ce que vous diriez cela également ?
Oui, fou, il a peut-être toujours été quand même d'une certaine manière. Donc c'est pas à proprement parler une nouveauté, le capitalisme depuis le 18e, 19e siècle, c'est toujours de détruire, comme disait Schumpeter, pour créer du neuf. Donc il y a une forme de folie intrinsèque à être constamment en train d'éradiquer ce qu'on sait au profit comme ça d'une promesse. Mais c'est vrai qu'on est dans une période nouvelle parce que, en l'espace de 30 ans, peut-être, nous avons connu deux révolutions industrielles. Donc c'est rare que ça aille aussi vite. On a eu la première révolution, on va dire, d'Internet dans les années 80-90, à proprement parler, qui a complètement changé le coût de la communication, la manière de penser, le rapport des entreprises au reste des marchés, à la mondialisation elle-même. Et déjà, on vient une autre qui n'est pas la même, pas de même nature, celle de l'intelligence artificielle qui est en train, à nouveau, de reconfigurer l'espace du travail. Donc on ne sait plus, il n'y a plus de loi qu'on puisse énoncer aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit toujours le progrès technique est bon pour la croissance et les salaires. Bon, ça, c'est les bonnes vieilles théories de la croissance telles que Robert Solow les avait installées dans les années 50 et 60. Il décrivait le 20e siècle. Le progrès technique, l'électricité, après la machine à la vapeur, c'est bien, ça donne plus de puissance aux travailleurs. Mais celle-là, on ne sait pas. Ça donne de la puissance à quels travailleurs? Quels emplois vont être remplacés? On est en pleine reconfiguration. Ça crée une angoisse, une incertitude. Il faut vivre avec ça, mais il faut aussi essayer de simplement apprendre à gérer cette incertitude en ne relâchant pas le soutien qu'on donne aux personnes en difficulté.
Est-ce que c'est cette angoisse-là, je sais que vous étudiez les populismes, est-ce que c'est cette angoisse-là, est-ce qu'il y a de l'économique derrière la montée du populisme ?
Mais évidemment, je pense qu'il n'y a que ça en réalité. Quand on regarde la montée des populismes partout dans le monde, c'est très corrélé à l'insécurité économique, c'est très corrélé au mal-être des personnes, c'est très corrélé à l'absence de confiance en autrui et aux institutions. C'est une perte de confiance générale dans nos institutions qui partout explique la montée du populisme. D'où vient cette perte de confiance? Mais dans le fait que depuis 30 ans, on ne trouve jamais de réponse adaptée, adéquate aux problèmes qui n'arrêtent pas de se poser et entre autres choses, parce que ces problèmes mutent constamment. Je crois donc indiscutablement que c'est là le cœur de la question. Autre problème, est-ce qu'on a une réponse à cette montée de l'insécurité économique? Au moins, entendons que c'est ça le problème avant d'aller trop vite à démanteler les sécurités qui existent déjà parce que ce serait la meilleure façon de relancer la croissance. Non, je crois qu'il faut être plus vigilant que jamais sur le fait que les gens ont besoin d'être protégés. Pardon.
Oui, non, mais vous l'aviez dit en arrivant, vous êtes malade.
Ouais.
Est-ce que pour vous, du coup, cette insécurité, cette montée des populismes, la question habite, c'est est-ce que vous voyez quelque chose qui ressemble aux années 30?
Oui, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Hannah Arendt, décrivant les années 30, disait, en fait, la montée de cette crise et du totalitarisme, c'est le fait que les gens ont vécu de manière très individuelle la crise qu'ils étaient en train de subir, alors même qu'elle était collective. Donc ils ont vu se refermer sur eux la nasse de cette crise, et tout d'un coup, quand on leur dit, mais vous êtes un peuple, et c'est collectivement qu'on va en sortir, ça leur a redonné, en effet, une espèce de conscience collective que le nazisme en Allemagne, mais Roosevelt aux États-Unis a été capable, au fond, de résoudre. On est dans une situation comme celle-là. Les gens vivent de manière de plus en plus personnelle cette crise, alors que ça n'est pas de leur faute. C'est une crise générale. Et donc, le populisme, au fond, c'est la réponse à une situation dans laquelle on a perdu confiance en tout et on a l'espoir vain qu'on pourrait reconstituer une communauté virtuelle à condition de s'abstraire du reste du monde, des étrangers, des autres. Il y a une très très forte corrélation, par exemple, entre le vote en France pour le Front National et la détestation des autres, pas simplement les immigrés, mais son beau-frère, sa famille, ses collègues. Donc on voit bien qu'une forme de solitude sociale est à l'œuvre dans l'explication de ce vote en faveur du Front National.
Bon, le livre sur les populismes, il sort à la rentrée.
Il sortira en septembre,
co-écrit
oui.
Avec Yann Algan, Martial Foucault et Elisabeth Besley. Avant de se quitter, Daniel Cohen, on va accueillir ensemble Sandrine Foulon. Sandrine, on n'arrête pas l'écho, ma vieux boulot. Y a-t-il un âge limite pour toucher ses indemnités chômage? Ça, c'est la question de Philippe. Il a bientôt 62 ans, il alterne des missions avec son allocation chômage. Il redoute de perdre les droits qu'il a accumulés.
Philippe, ce n'est pas seulement une question d'âge. Si vous avez cotisé tous les trimestres nécessaires et que vous allez fêter vos 62 ans, alors oui, au-delà de cette limite, votre droit au chômage n'est plus valable. En revanche, une personne qui n'a pas suffisamment cotisé peut encore bénéficier des allocations jusqu'à 67 ans. Il faut qu'elle soit indemnisée depuis au moins un an, qu'elle puisse justifier de 12 années de travail et d'au moins 100 trimestres validé. Mais dès que ces deux conditions, trimestre et âge légal, sont réunies pour avoir une retraite à taux plein, l'indemnisation s'arrête. Tant pis s'il vous reste des droits à consommer. Pour Pôle emploi, un jour travaillé est un jour indemnisé et tant qu'on travaille, ces droits au chômage sont reportés dans le temps. Sauf qu'ils se heurtent au mur de la retraite à taux plein. Dans notre système de protection sociale, c'est l'assurance vieillesse qui prend le relais de l'assurance chômage.
Oui, mais alors Philippe, il explique qu'il n'aura pas de retraite à taux plein parce qu'il subit la décote liée à la retraite complémentaire.
C'est vrai, depuis le 1er janvier, une personne qui est en droit d'obtenir une retraite à taux plein sur son régime de base subit une décote de 10% sur la partie complémentaire de sa pension, Agirc-Arrco, pendant les 3 premières années de retraite. Si elle accepte de partir un an plus tard, ce malus disparaît. Bon, depuis un accord du 10 mai signé par les partenaires sociaux, ce système de décote a été assoupli. Les retraités qui sont exonérés de CSG sur leur pension de retraite complémentaire continuent d'échapper à ce malus. Mais c'est aussi le cas désormais pour les personnes qui ont épuisé leur droit au chômage et qui touchent l'allocation de solidarité spécifique. Et c'est également vrai pour toutes celles qui bénéficient d'une allocation adulte handicapé, d'une pension d'invalidité ou qui sont en incapacité. Pour vous, Philippe, qui n'êtes pas dans ces cas-là, vous allez devoir continuer à travailler si vous ne voulez pas subir la décote, en cumul, emploi-retraite ou pas. Alors bien sûr, se faire embaucher à 62 ans, c'est pas simple. Je rappelle qu'au moment d'ouvrir ses droits à la retraite, une personne sur deux ne travaille déjà plus. Il y a une sorte d'entre-deux, de période sans emploi ni retraite, qui a tendance à s'allonger à mesure que l'âge de la retraite à taux plein recule. Et si on écoute bien la petite musique de ces derniers jours, ça ne devrait pas s'arranger.
Merci Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Merci à vous, merci à Christian Chavagneux, Emmanuel Lechypre. Merci à Daniel Cohen, le directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Merci d'avoir été avec nous ce samedi.
Merci à vous.